Le 16 avril 2018, je partais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voici mon histoire. Dès mon réveil, je me rendis à la cathédrale pour trouver le Père Rouen. J'étais décidé à lui demander le sacrement du baptême. J'y appris d'un séminaire qu'il ne serait pas en ville avant 3 jours. Je compris que j'allais passer au moins 1 semaine sur place. Après 3 semaines de marche, je craignais de vivre difficilement cette sédentarisation. La question du logement ne m'inquiétait pas trop, d'une part parce que la confiance commençait à vraiment s'installer en moi, d'autre part parce que je savais qu'il ne serait pas difficile de gagner 5 euros par jour pour dormir au même endroit qu'au soir de mon arrivée. Je m'inquiétais plus de ce que j'allais bien pouvoir foutre de mes journées. « Eh bien, laisse-toi guider, sans où est ta place, pensais-je. Si cela fonctionnait en marchant, pourquoi pas en glandant ?» Je m'assis sur le parvis de la cathédrale, sortis quelques bouts de bois ramassés en chemin, et me lança dans la confection de crucifix. Je m'étais dit que je pourrais les vendre en donativo, façon plus échangeresse de faire la manche, ou les offrir aux personnes qui se confieraient à moi. L'histoire retiendra, ou pas, que j'ai tout au long de mon chemin passé plus de temps à en offrir qu'à en vendre. La première croix fut achetée par une mamie des plus truculentes. Celle-ci me lâcha 10 balles et se mit à me raconter sa vie. « Une vie pleine de grâce », m'avait-elle dit. Après avoir beaucoup manqué dans sa prime jeunesse au temps du rationnement de guerre et perdu ses parents à l'âge de 13 ans, la vie a fini par lui réserver toute une succession de petits bonheurs. Un travail épanouissant en tant qu'assistante de direction dans une maison d'édition, mariage avec l'homme qu'elle a chéri jusqu'à son décès, investissement dans des associations humanitaires engendrant de nombreux voyages en Afrique, gros gain d'argent à la loterie, 3 jours après son licenciement, c'était certainement la personne la plus épanouie et reconnaissante quant à sa vie que je n'ai jamais rencontrée. « Et puis je n'ai jamais été malade, » me dit-elle. « J'ai 94 ans et je ne sais même pas ce que c'est qu'un rhume. » De cet instant, toute une routine se mit naturellement en place. Tout un cortège de gens, de tous âges, de toutes conditions et de tous sexes s'arrêtait devant moi, me lâchait la pièce et me racontait leur histoire. Seule celle de la mamie était joyeuse, les autres venaient me conter leurs tourments, leurs peurs, leurs colères, leurs tristesses. Tous repartaient en pleurant. De 9h à midi, je donnais mes consultations devant la cathédrale. De midi à 14h, je redistribuais le conséquent surplus de brousouf aux clochards de la ville, qui ne manquaient pas non plus de me livrer leur cœur. Les après-midi, je reprenais mes séances sur le parvis et le soir, je rentrais chez Pierre, un des diacres de Cahors, et Jacqueline, son épouse. Ils m'avaient invité à séjourner chez eux le temps nécessaire. J'avais à manger et un toit. Mes frais se résumaient à ma pause café syndicale de 10h, mon repas de midi, mes clopes et ses marres. Tel était mon quotidien à Cahors. Il s'agit là uniquement de mon histoire et je peux te garantir qu'aucun des mendiants que j'ai rencontrés tout au long de mon chemin, ni après, ne gagne autant que moi. Loin de là. N'en doute pas un seul instant, faire la manche est loin d'être une sinécure. Avant qu'une malheureuse pièce de 50 centimes ne tombe dans ton chapeau, des centaines de personnes te passent sous le nez sans même t'accorder un regard. D'autres daigneront te prêter une brève attention, un bref instant, uniquement pour te faire sentir tout le mépris qu'ils ont pour les gens comme toi. Tu attends des heures durant, sous le cagnard brûlant ou dans le froid glacial, avec cette peur au ventre. Vais-je me faire dégager par les flics? Pourrais-je manger? Aurais-je un abri pour la nuit? Faire la manche est l'une des plus grandes épreuves d'humilité. Crois-moi, malgré les conséquentes sommes que j'ai gagnées à Cahors, je suis aussi passé par là. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel.
a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Jeudi 10 mai 2019, Jacqueline, Pierre et moi nous sommes rendus à la messe de l'Ascension, célébrée par le père Ronan. Arrivés à l'église, Pierre et une bonne dizaine de paroissiens interpellèrent l'abbé, l'informant de mon souhait de le rencontrer. Ronan vint à ma rencontre, me proposa un rendez-vous le lendemain soir, puis se retira pour finir les préparatifs de l'office. Il fut encore interpellé par d'autres à mon sujet avant de disparaître de la sacristie. C'était touchant de voir ces paroissiens désireux de me voir baptisé. Si l'on ne m'avait pas menti sur le dynamisme et la verve du père Ronan, j'ai toutefois été assez déçu de son homélie. Je la trouvais trop superficielle et peu spirituelle. Elle revêt plus du chaud que de la piété. Le lendemain matin, je fis la connaissance de C. Je l'avais déjà croisé la veille au soir à la cathédrale. Il était venu assister à la prière du chapelet, où je m'étais rendu à la demande d'un paroissien. La présence de C et de sa guitare avait permis d'égayer le rosaire qui était bien tristement entonné. C'est fou comme certaines personnes se sentent accablées de tristesse lorsqu'ils prient. C et sa guitare, donc content de réveiller l'auditoire, avaient aussi fait découvrir l'insoupçonnée beauté vocale de deux demoiselles qui, à leur tour, ont chanté en les lieux. Ce matin-là, allant prendre ma pause café, je m'assis à la terrasse de mon troquet habituel. Juste à ma droite se trouvait C, qui, m'ayant reconnu, m'invita à sa table. Après quelques présentations d'usage, il me raconta ses tourments. Ayant grandi dans une riche famille de débauchés, d'après lui, sa grand-mère tenait un hôtel de passe que l'on peut clairement qualifier de maison close. Tombé très jeune dans la prostitution, il servait de porte-flingue à sa grand-mère pour tabasser les mauvais payeurs. Plus tard, il reprit la charmante petite affaire familiale en la faisant entrer dans l'industrie de la pornographie, avant de se faire arrêter et écrouer. Lors de son séjour en prison, il réalisa que sa vie n'avait été motivée que par la colère et la violence. Face à l'épouvante de ses actes, il est sorti de tôle convaincu qu'il avait fait fausse route et était dévasté par la honte. Il ne vivait plus que dans le dégoût de lui-même, le regret et la peur de retomber dans ses travers. Commençant par lui confirmer qu'en effet sa vie d'avant me semblait des plus horrifiantes, je lui rappelais ce qu'il nous avait fait vivre la veille. Tous ces touristes qui regardaient d'un air moqueur les paroissiens priant furent abasourdis par la grâce des notes qui avaient enchanté les lieux. Que c'était bien lui qui avait initié cela. C'était donc la preuve que du beau existe encore en son être et qu'il était capable de produire autre chose que de la merde. Je lui fis remarquer qu'il avait conscience du mal qu'il avait pu faire et que celle-ci le brûlait de honte. Il avait bel et bien choisi de vivre autrement, de quitter l'horreur. Je lui conseillais de se pardonner, chose peu évidente, je le savais, de bâtir sur de nouvelles fondations, celles d'un homme qui sait ce qu'il ne veut pas être et de définir qui il souhaite devenir et ce qu'il souhaite construire. Je lui affirmais qu'il avait forcément au fond de lui quelque chose qui lui tenait à cœur et qu'après avoir étouffé ce cœur par l'horreur et le remords, il était temps qu'il écoute enfin. La gorge serrée, essuyant ses larmes, il me remercia de voir en lui la beauté qu'il ne voyait plus briller, m'embrassa tout tremblant, m'offrit un café et partit. C'était mon chemin de Compostelle, que vous pouvez réécouter en podcast sur flavienbernard.fr dans la rubrique radio, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un bon chemin.